Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
C'est la Biennale ou le Festival de la BD qui a lieu tous les deux ans à Nîmes. Et je suis auprès, c'est tout à fait naturel, des deux lauréats qui seront tout à l'heure récompensés. Donc pour l'instant, ils n'ont pas encore le prix, c'est officieux. Mais c'est eux qui ont remporté le prix Annie Pesson de la BD Antiquisante l'année 2025, qui portait sur quelques albums, une quinzaine d'albums de 2024. Alors, on ne les présente pas parce que ici, à Nîmes et pas loin à Arles encore plus, ils sont très connus. C'est David Jaoui que je salue. Bonjour David.
Bonjour Martine.
Et Laurent Surat que nous connaissons aussi très bien. Et chaque année, on a l'occasion, presque chaque année, de lire un album d'Arrêt Laté. Série qui se termine.
Oui.
On avait
Bonjour.
Eu l'occasion d'en parler sur Antiquissimo, sur Radio Alliance Plus.
Tout à fait.
Donc, je reviendrai les torturer quelques minutes tout à l'heure, mais je m'adresse d'abord à une lectrice, c'est normal. Hein. Cette lectrice, elle est aussi connue de nous trois ici. C'est Sabine, dont les enfants et elle-même adorent la BD, je crois.
C'est ça, tout à fait. Et notamment la BD en lien avec l'Antiquité.
Voilà. Parce que nul n'est parfait, Sabine est professeure de lettres classiques. Mais je précise qu'il n'y a pas que des professeurs de lettres classiques qui adorent les BD antiquisantes. Tous ceux qui aiment l'histoire, tous ceux qui aiment l'archéologie, on en reparlera tout à l'heure, adorent feuilleter ces albums de plus en plus riches. On en reparlera. Alors celui-ci, l'histoire possible de Walerius Proculus, est-ce qu'il vous a plu, Sabine ?
Ah, moi, j'ai adoré. J'ai adoré justement le mélange entre BD et partie archéologie, recherche archéologique et comment mêler la fiction et une réalité possible avec des recherches.
Et oui, parce que cette BD est le fruit d'un très très long travail. Premier travail, l'archéologue. Qui est David Jaoui, on va en reparler. Deuxième travail, le romancier qui a écrit une enquête archéologique, tout comme on écrit une enquête policière. Ce roman a connu un très très grand succès et c'est ça qui a donné l'idée, sans doute, ils nous le diront tout à l'heure, de passer au stade de la BD. Et c'est vrai que là, le compromis, il est parfait. Hein.
Il est parfait et il est parfait, je dirais, pour tout lecteur, mais aussi pour nos collégiens. Voilà, il devrait être dans tous les CDI.
Alors, j'espère qu'il y a parmi les auditeurs d'Antiquissimo des tonnes de collègues qui vont s'empresser de commander le livre en masse, hein, parce que là, pour les élèves, il en faut pas mal. Mais donc, qu'est-ce que vous, en tant que professeur, là, je ne parle plus d'amatrice de bande dessinée, qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos élèves concernant cette BD ?
Pour leur donner envie de la lire.
Oui.
Et bien justement, que le côté, ils sont souvent attirés par la bande dessinée. Ça, ils lisent sans problème des bandes dessinées. Là, en plus, à chaque fois, il y a des petits dossiers bien fouillés, bien analysés, et qui leur permettent d'aller un peu plus loin, et ensuite peut-être de lire le livre de David Jaoui, le roman qui est sorti.
Voilà, donc on peut faire les choses dans l'ordre qu'on veut. Et tous ceux qui connaissent David Jaoui, je vais revenir à lui maintenant, qui est un archéologue rattaché au musée bleu, le musée départemental.
Art l'Antique.
Et alors, l'aventure a commencé comme ça, parce qu'il y a trois aventures qui se sont superposées.
Ouais, tout à fait. La première aventure, c'est celle des fouilles subaquatiques, avec des découvertes qui ont nécessité un travail de post-fouille sur plusieurs années. Et à partir de là, c'est vrai que je transmettais dans des conférences grand public tout ce travail de recherche. Et c'est vrai qu'une conférence, c'est beaucoup de boulot, et finalement, il reste, des fois, on nous dit qu'il reste 10%, en fait, les gens retiennent 10% à peu près de ce qu'on dit. Donc l'idée, c'était d'expliquer la post-fouille, c'est-à-dire ce travail de recherche dans un livre. Donc l'histoire a commencé véritablement avec enquête archéologique qui permettait vraiment de retracer tout ce travail de recherche pluridisciplinaire avec différents collègues. L'idée, c'était de rendre la recherche vivante, hein, en retranscrivant des discussions, des conversations téléphoniques, des échanges de mails avec les chercheurs.
Oui, et roman est truffé de tous ces éléments qui montrent qu'on n'a pas la solution tout de suite.
Ah, tout à fait, hein, tout à fait. On envisage des hypothèses, on les rejette, et quand on les valide, c'est à ce moment-là qu'il faut interpréter, et c'est à ce moment-là, finalement, qu'on raconte une histoire. Donc après ce bouquin, l'idée, c'était effectivement de d'inverser un petit peu le scénario. C'est-à-dire, dans le livre, j'expliquais toute cette recherche. Et avec la BD, je donne d'une certaine façon la solution au départ. C'est-à-dire, je raconte l'histoire, on la comprend, un peu comme dans un Columbo. Hein, on
voilà,
voit
exactement.
Directement l'histoire dans l'Antiquité. À la fin de chaque histoire, un objet est jeté dans le Rhône. Et ensuite, dans un dossier pédagogique, on voit comment l'archéologue, en étudiant cette histoire, a pu imaginer le scénario qui se place dans l'Antiquité. C'était vraiment
alors,
l'objectif.
Alors, dans l'Antiquité, à quelle époque et dans plusieurs lieux différents?
Alors, effectivement, on est à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. L'histoire est entre Cadix, Rome également, et Arles. Et c'est l'histoire d'un négociant du nom de Valerius Proculus. Donc ce nom, je l'avais trouvé sur une cruche, elle était inscrite à la peinture, on avait deux lignes d'inscription peintes. Et c'est vrai qu'après 4 ans d'enquête, en réunissant différents indices, on a pu retrouver une stèle où en fait le personnage, l'homonyme, cochait toutes les cases, à savoir un statut social important, à savoir un contexte chronologique identique. Hein, c'était quelqu'un qui avait vécu entre la fin du 1er et le début du 2e siècle après Jésus-Christ. Et la stèle se retrouvait vraiment à l'endroit où j'avais imaginé qu'un producteur de grands vins, il s'agit de l'Albanum, l'un des plus grands vins blancs de l'Italie romaine, et la stèle se retrouvait au pied des monts Albains. Donc là, il y avait tout qui cochait, qui concordait, et c'est vrai que le parallèle avec une enquête policière est vraiment, vraiment, vraiment fondé. Hein. On a vraiment des indices, on réunit des experts. Hein. Alors, nos experts à nous, ce sont des carpologues, des spécialistes de la graine, on a des chimistes aussi qui vont analyser l'intérieur des amphores, des céramiques, parce que la céramique va enregistrer la mémoire chimique du contenu. Donc avec ces experts, avec cette enquête pluridisciplinaire, on arrive finalement à reconstituer une histoire.
Et donc le roman a eu énormément de succès, mais on peut peut-être aussi passer par la case qui m'avait enthousiasmé aussi de l'exposition à Marseille, On n'a rien inventé.
Tout à fait, oui.
Où justement vous aviez d'une manière brillantissime, très claire, apparemment simple alors que tout est compliqué quand même, montré qu'à partir de quelques mots griffonnés sur une amphore, on peut en déduire beaucoup de choses en passant par des tas de fausses hypothèses. Et
ah mais totalement, voilà. Totalement. C'est vrai que c'était une expo, On n'a rien inventé, sur la gastronomie dans l'Antiquité romaine. Donc moi, je disposais de pas mal d'objets, mais ces objets, c'était après tout des inscriptions en latin à moitié effacées. Donc c'était quand même assez difficile d'attirer le public. Et le pari, ça a été vraiment de confronter les étiquettes de nos emballages actuels avec ces inscriptions peintes. Et à ma grande surprise, ça fonctionnait. Hein. Même quelquefois, ça me donnait des solutions. Et c'est vrai qu'on était sur l'idée d'étiquette commerciale, l'idée du packaging, puisque les amphores, chaque forme d'amphore correspond à un produit et une provenance. Et c'est la même chose pour nos bouteilles de vin. On reconnaît une bouteille de Bourgogne, une bouteille de Bordeaux, une bouteille de Champagne. Donc on est vraiment dans cette notion où la forme de l'objet, que ce soit une amphore ou une bouteille, permet d'identifier le contenu et également la provenance. Et ça fonctionne très bien auprès du grand public.
Alors donc, le résultat, c'est-à-dire ces dessins, ça vous satisfait? C'est exactement ce que vous vouliez?
Ah mais c'était même mieux, parce que moi j'ai vu naître en fait sous les traits de Laurent ce personnage de Valerius Proculus. Je travaillais quand même 4 ans dessus.
Et vous avez fait sa connaissance?
J'ai fait sa connaissance, et ce qu'il y a de fou, c'est que cette histoire m'a permis d'envisager d'autres hypothèses, alors que je n'ai pas pu mettre dans la BD, et peut-être de résoudre des questions qu'on se pose depuis 50 ans. Donc là, rentrer dans les détails, ce serait un petit peu compliqué, mais en tout cas, grâce à la BD, grâce à ce que j'ai imaginé, en octobre, je vais me rendre dans un colloque à Tarragone pour livrer cette hypothèse qui a été suggérée finalement par cette imagination, alors poussée à son extrême dans la bande dessinée, mais on s'ancre dans une réalité et du coup, on trouve des solutions concrètes à des questions qu'on se posait.
Et alors, une fois ce congrès passé, est-ce qu'on a une chance de voir ces nouvelles hypothèses poindre dans un autre livre?
Ah mais tout à fait, hein. J'ai déjà d'autres objets, effectivement, qui pourraient rentrer dans une suite de ce fameux Valerius Proculus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si je devais réécrire le dossier pédagogique, je pourrais rajouter des éléments, parce qu'il y a des éléments nouveaux. Alors, j'attends que ce soit validé par mes collègues espagnols. C'est tout l'intérêt d'un colloque, c'est de confronter ses idées, ses hypothèses aux collègues. Après, je ne suis pas fou, hein, j'y vais pas. J'ai déjà eu l'aval de pas mal de collègues des grands pontes qui travaillent sur le commerce de l'Antiquité. Donc j'y vais, on va dire, de manière assez sereine. Mais en tout cas, il faut le valider dans un colloque, il faut le publier. Et à partir de là, à moi de trouver les idées pour le mettre en valeur. Et pourquoi pas le mettre en valeur dans une autre BD, une autre exposition, ou pourquoi pas un autre livre.
et des conférences à Arles peut-être aussi ?
Oui, tout à fait, de temps en temps, je suis sollicité, que ce soit par des associations, par le musée. Là, très récemment, j'ai fait un séminaire à Lyon, c'était ouvert au grand public, et le titre de l'exposition, c'était l'archéologie, l'imagination au service de l'archéologie. Et c'est vrai que l'imagination, c'est vraiment une donnée concrète, car finalement, une fois qu'on a fait le travail de l'archéologue, du céramologue, le spécialiste de la céramique, à savoir identifier la datation, la provenance, il faut qu'on interprète. Et c'est là où l'imagination peut servir l'archéologie, car l'interprétation, l'imagination, elle n'est pas gratuite, hein, elle s'ancre dans un contexte de découverte. Quand on trouve ces objets dans un contexte portuaire et commercial, a priori, ces objets ont été jetés en lien avec ces activités. Et c'est là où on peut aller beaucoup plus loin et finalement raconter une histoire, voire écrire d'une certaine façon l'histoire.
Réécrire l'histoire.
C'est ça.
Et alors, c'est assez fascinant parce que moi qui m'intéresse beaucoup à tout ce qu'a dit Freud sur l'archéologie, on voit qu'il y a des ponts qui se créent un petit peu partout à partir de cette idée qu'on va faire sortir du sol ou de l'eau des choses cachées. Et c'est ça la psychanalyse aussi, finalement.
Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai lien, mais c'est quand même assez grisant de voir comment on arrive, à partir d'une découverte qui semble anodine, à tirer un fil, à se poser des questions, à essayer d'y répondre. Et c'est à ce moment-là qu'on contacte des latinistes, des historiens, différents spécialistes qui vont permettre d'alimenter cette hypothèse et de la valider. Et c'est vrai que dans ce livre Enquête, là, on l'a réédité. Au départ, Actes Sud m'avait demandé effectivement de rajouter des feuillets. Moi, j'avais plus rien à rajouter. J'avais d'autres découvertes, mais qui n'avaient pas de lien avec cette histoire. Et au final, il y a eu deux découvertes, une dans le Rhône et une en Espagne, sur une épave, qui confortaient totalement mes hypothèses. Et du coup, j'ai pu alimenter la réédition, augmenter grâce à ces découvertes. Donc voilà, on sait jamais à quoi on va être confronté.
Ah oui, des interactions formidables.
Exactement. On imagine quelle est la découverte qui pourrait nous permettre de valider ce qu'on a imaginé. Et en fait, tout ce que j'avais imaginé, ça ne s'est pas passé. Et c'est autre chose, d'autres découvertes. Et c'était impossible à imaginer. Donc pour l'instant, je suis ravi. Hein, mais bon, de même, peut-être qu'une découverte va aller dans le sens inverse, on ne sait pas. Mais pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne bien.
Alors, je me souviens, là, c'est pour le dessin, de Jean-Claude Golvin disant qu'il a été obligé de revoir sa copie, entre guillemets, parce qu'autour des arènes, il avait mis des tours et des toitures. Et en travaillant avec les archéologues sur l'exposition qui a eu lieu au Musée de la Romanité sur les arènes, il s'est rendu compte que ce n'était pas viable. Donc, il a été obligé de revoir ses dessins. Ça marche dans tous les sens.
Ça marche dans tous les sens, mais c'est très important quand même, à un moment donné, de se projeter, d'imaginer et d'aller plus loin. Parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas s'apercevoir qu'on avait tort. Et on ne peut pas reconsidérer notre hypothèse pour donner un autre scénario. Si on n'imagine rien, si on n'interprète rien, à ce moment-là, on peut enchaîner les découvertes et pas s'apercevoir des modifications. Donc ça, c'est vraiment important.
Bon, ben merci beaucoup, David. Ben,
merci,
et à tout bientôt. Alors maintenant, je suis à côté de Catherine et de Patrick, qui sont deux adhérents de Carpe Fush, et donc forcément deux personnes qui s'intéressent de très près à l'histoire de l'Antiquité et à la BD. Alors, on vient chercher l'album qui va recevoir le prix, Catherine ?
Exactement, voilà, je suis très friande de ces BD antiquisantes, c'est toujours d'une très grande qualité, et je suis ravie de pouvoir rencontrer l'auteur et l'illustrateur.
Donc nous avons Laurent Sirac qui dédicace sa BD et vous aurez le plaisir de la découvrir après.
Exactement.
Et de tout lire à la lumière des explications qu'on vient d'avoir. Donc David nous a donné son point de vue d'archéologue, de romancier. Et même s'il n'aime pas trop qu'on l'embête avec des questions, eh bien je me tourne maintenant vers Laurent que nous connaissons depuis très très longtemps, puisque je l'ai dit tout à l'heure, à Relater, c'est notre tasse de garum, hein, faut bien le dire. Alors comment est-ce que vous êtes lancé dans cette aventure, Laurent ?
Alors on se connaissait déjà depuis pas mal de temps avec David, puisqu'on l'avait déjà sollicité à l'occasion des carnets pédagogiques du tome 4 d'Art et Laté, justement sur ces histoires de pipettes, etc. Donc on va retrouver maintenant également dans Valerius Proculus. Et je crois que c'était lors d'une discussion avec justement Alain Genot
que donc votre complice pour arrêter.
Exactement, que je suis arrivé dans l'équation du Valerius Proculus, puisqu'apparemment David avait une petite idée pour cette exposition pour laquelle il avait été sollicité, et son idée c'était éventuellement de faire de la bande dessinée, effectivement, la présenter sous forme de bande dessinée, mais il n'avait pas d'illustrateur, et je crois que tu s'arrachais les cheveux à cette époque-là en disant mais comment je vais trouver et tout, et puis Alain naturellement m'a proposé, on va dire. Et c'est vrai que ça a été une très belle expérience, notamment parce que comparé à Relaté, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule graphiquement. Je suis parti sur quelque chose qui est plutôt semi-réaliste. Et c'est quelque chose que je voulais faire depuis pas mal d'années. Et finalement, on avait 25-26 pages à faire. C'était le bon moment, je trouve, pour pouvoir justement explorer des nouveaux graphismes, en fait. Et un peu différent d'Arrelaté, d'autant plus qu'Arrelaté arrivant à la fin, bah, c'était bien aussi pour moi d'explorer de nouvelles pistes, en fait.
Et alors, comment s'est passé le travail, une fois que l'idée était lancée? Comment vous avez travaillé tous les deux?
David avait une idée très claire de ce qu'il voulait, on va dire, au niveau de son histoire. Donc, il m'a fourni, on va dire, c'était pas tout à fait un scénario, mais c'était un peu plus qu'un synopsis. Donc, c'était, on va dire, production d'écrit, maintenant dit, apparemment, dialogué. Donc, pour moi, c'était largement suffisant pour me lancer dans les plans, dans les pages BD. La vraie différence par rapport à un scénario, c'est que j'étais incapable au départ de donner une pagination exacte, donc ça a été un peu fluctuant, mais j'ai proposé des choses à David. On avait d'énormes contraintes par rapport à l'expo, puisqu'il fallait qu'on fasse apparaître 11 objets archéologiques qui ne devaient pas être...
Ah oui, il y avait un cahier de charges, voilà, très précis.
Ils ne devaient pas être en haut des pages ni en bas des pages par rapport à la scénographie de l'exposition. Donc il y a eu quand même pas mal de contraintes pour certains objets. Enfin, pour la majorité, on ne devait pas les faire apparaître sur des pages panoramiques. Bah, voilà, ça a été un peu compliqué, et en même temps, c'était assez enthousiasmant d'imaginer les pages et se projeter sur la partie exposition, sachant que le but était in fine d'exposer des pages dans lesquelles les objets apparaissaient au format à l'échelle 1. Donc il y avait tout un jeu d'homothétie à maîtriser et tout. Donc, pour ça, mon passif, on va dire, scientifique m'a permis d'y aller la fleur au fusil, on va dire. David a stressé tout le long, on va dire, tant qu'on n'a pas fait cette première impression de 1m50 par 1m80 pour vraiment avoir
la bonne échelle,
exactement.
Ah, je stressais, mais à juste titre, parce que quand vous faites une exposition, vous avez les menuisiers, les socleurs, les vitrines, il y a toute cette fourmilière qui arrive. Je me suis dit, si les dessins ne sont pas à l'échelle 1, ça va être la catastrophe.
Vous êtes... Ah oui, oui, oui.
Donc, effectivement, et moi, non stress.
Moi, no stress. Donc, vous vous complétez bien.
Voilà. Donc voilà, c'était au final, ça a été une bonne expérience. Le changement graphique, c'est toutes ces contraintes qui au final deviennent une force, parce que ça m'a obligé quelque part à travailler par bandeau, un peu comme Astérix en fait, 4 bandeaux, etc. Donc jouer avec tous ces codes là limite un gaufrier, on va dire, et c'était quelque chose que je voulais faire depuis pas mal de temps. Donc j'aime bien, moi, changer en fonction des projets, changer de graphisme, changer de narration et tout. Donc là, j'ai juste poussé, on va dire, le curseur un peu plus loin, ou tous les curseurs à la fois, on va dire. Mais c'était assez sympa à faire.
Et combien de temps ça a pris?
Sur la partie dessin, ça a été relativement rapide, puisque finalement pour moi c'était qu'un demi-album. Donc je crois qu'en 4-5 mois, pour moi, c'était fini. Mais c'est vrai que ça a été un temps plus long, en fait, entre les discussions, entre les moments de pause pour voir si tout matchait bien, etc. Voilà. Mais l'un dans l'autre, voilà, moi je crois que j'ai mis quelque chose comme 4 mois, on va dire, pour le faire.
Et finalement, le dossier archéologique, ça n'a peut-être pas été le plus simple à faire.
Alors pour moi,
t'as l'habitude de raconter
des
histoires.
Alors pour moi, je ne me suis absolument pas occupé de ça. D'habitude, avec Arrelaté et avec Alain Genot, on discute en amont de ce qu'on va pouvoir mettre dans le carnet pédago. Là, David savait exactement où il allait. Moi, j'étais vraiment au service, j'allais dire, de l'histoire et au service de David, on va dire, pour réaliser cet album-là. Arrelaté, je suis un peu le maître à bord, parce que j'écris quand même la chose, etc. Là, pour le coup, c'était vraiment la position du dessinateur. yes men quelque part, hein, qui est aux ordres et qui amène des choses forcément, hein, mais qui est en retrait par rapport à ça, l'ego est de côté on va dire, et je suis là vraiment pour servir l'histoire et servir le propos de cette exposition. Et le carnet pédagogique, on va dire, c'est une continuation finalement de l'exposition, une réadaptation finalement de ce qui a été fait et à l'expo et dans le roman Enquête archéologique.
Oui, dans l'exposition, c'était des vidéos qui remplaçaient le carnet pédagogique.
Et est-ce qu'on peut imaginer, à cause ou grâce à Tarragone, qu'il y ait une version espagnole ?
Alors ça dépend pas de moi. C'est effectivement, si à un moment donné il y a un éditeur qui est prêt à payer un traducteur, c'était le cas aussi pour Enquête archéologique. Oui. Hein, j'avais une piste en Italie, en Espagne, mais après moi, c'est des choix qui étaient éditoriaux.
Mais quand tu vas aller à Tarragone, tu amèneras l'album, j'imagine quand même.
Oui. En tout cas, je vais le montrer dans le PowerPoint de présentation comment est arrivée cette idée.
Alors, on rencontre que du beau monde dans ce salon de la BD. Et là, ici, je reconnais Sarah, que vous avez entendu il y a peu dans Antiquissimo, responsable de la librairie, de la boutique du Musée de la Romanité, où elle nous rappelle qu'on peut trouver cette BD là-bas.
Bien sûr, ça fait partie d'un de nos best-sellers, la BD antiquisante Valerius Proculus. Donc vous pouvez la retrouver, bien évidemment, à la librairie boutique du musée.
Alors je conseille ici sur le salon de venir au stand de la librairie Pop-Up, d'acquérir cet album et de vite aller le faire signer. À quelques minutes de la remise du prix Annie Pesson de la BD antiquisante, comme chaque fois, l'artiste qui crée le trophée qu'on a baptisé le Croco des Reins nous fait la joie de venir le remettre. Françoise, toujours contente de remettre ce prix ?
Je suis toujours enchantée de venir remettre le prix en main propre auprès des auteurs qui sont des artistes et des indépendants.
Alors donc là, vous allez en effet remettre à Laurent Surac, le dessinateur, et à David Jouaoui, archéologue, romancier et scénariste de cette BD. Et ils seront ravis de garder en garde alternée le Croco des Reins.
Tout à fait. C'est vrai que cette année, il y a deux auteurs. Et du coup, c'est un croco qui déjà est unique. Et donc... c'était pas prévu, il sera en garde alternée.
Donc si vous voulez retrouver Françoise Setaboker dans son atelier, qui se trouve place
de la République,
et elle se fera un plaisir de vous montrer tout ce qu'elle sait faire, et l'éventail est très très large.
Avec plaisir et à très bientôt.
À bientôt. Se voir remettre ce qu'on appelle pompeusement le Croco des Reins, qui est une création d'une artiste de Beaucaire que vous verrez tout à l'heure. Et je les laisse s'approcher pour énoncer le titre à rallonge de leur album. J'ai nommé donc David Jouaoui, archéologue rattaché au musée bleu, le musée d'Arles, romancier qui a raconté déjà l'enquête archéologique qui est la base de cette bande dessinée, et enfin scénariste de cette aventure. Donc je lui demande de s'approcher, David.
On est très content avec Laurent. Alors moi, c'est vrai que je suis plus archéologue qu'artiste. Ce livre, L'histoire possible de Valerius Proculus, c'est vrai que c'est un titre à rallonge, mais possible, c'est parce qu'on est dans une imagination, dans des hypothèses. Et ce travail fait avec Laurent, donc le dessinateur, à la base, c'était une exposition qui s'est tenue au 21 bis Mirabeau à Aix-en-Provence. L'idée, c'était de raconter trois histoires qui se passent dans l'Antiquité. À la fin de chaque histoire, un archéologue trouve l'un des objets et on voit dans un dossier pédagogique comment l'étude de cet objet m'a permis d'imaginer cette histoire. Donc ça, c'était vraiment le principe de cette bande dessinée. Il faut saluer quand même le travail de Laurent qui a pu tout dessiner en un temps assez rapide avec Laurent Surac. Avec une double difficulté, je vais vous expliquer, c'est que dans l'exposition, on avait des planches de BD à peu près de cette dimension, en couleur, et tous les trois planches, cette planche était agrandie 1,50 m de large, 2,50 m de hauteur, donc c'était énorme. Et son challenge, il fallait que l'objet puissent être à l'échelle 1. Donc ils partaient d'une planche de BD au format A3. Une fois agrandie, 2,50 m de hauteur, 1,80 m, il fallait que l'objet se retrouve à l'échelle 1 pour qu'on arrive à saucler, à accrocher le vrai objet en trompe-l'œil. Donc c'était un sacré challenge. J'étais particulièrement stressé parce que j'avais peur que ça ne puisse pas coller, il faut bien l'avouer. Par chance pour moi, Laurent, avant d'être dessinateur, a fait des études de sciences. Donc au niveau des proportions, il n'y avait aucun problème. Lui, il n'était pas du tout stressé, mais moi, oui. Parce que quand vous engrangez l'accrochage avec les menuisiers, avec les socleurs, avec toute cette fourmilière qui construit l'expo, si vous vous retrouvez avec des objets qui ne sont pas à l'échelle 1, vous êtes un petit peu embêté. Donc bravo à lui, merci de m'avoir fait confiance. Et merci encore à la mairie de Nîmes, à l'association Carpentier et Carpentier pour nous avoir décerné ce prix. Laurent, je te laisse la parole.
On va peut-être laisser la parole à Laurent et demander à Françoise Reban de s'approcher avec le trophée.
Merci à tous et merci à l'association Carpefeuche pour le prix. C'est vrai que ça fait quelques années que moi je travaille avec des archéologues, David Jaoui et Alain Genot, sur de la BD antique. Et c'est vrai que cette expo était super et cet album finalement très intéressant parce que ça poussait encore un peu plus le projet que j'ai depuis quelques années de faire de la médiation, on va dire, archéologique via de la bande dessinée. Et je pense qu'effectivement, ça sera sûrement le type d'album que j'aurais fait où j'aurais le plus poussé cette médiation-là. Et au-delà de ça, ce qui a été super intéressant avec cette exposition, c'est le retour des lecteurs, les gens qui ont découvert cette expo, qu'on espère pouvoir présenter ailleurs. Il y a des pistes en ce moment. Mais ça a été super intéressant parce que, comme l'a dit tout à l'heure l'autre auteur, j'ai perdu son prénom, en fait, c'est voilà, le retour des gens, ces étoiles dans les yeux, parce qu'ils sortent de cette expo-là en ayant appris des choses. Et finalement, on a coché, j'allais dire, toutes les cases de cette médiation par la bande dessinée. Donc voilà. Merci à tous.
Au revoir.
Remettre le trophée. Je veux simplement rappeler que ce prix existe depuis une dizaine d'années et que l'association Carpefeuche a à cœur de récompenser un album de l'année précédente. Là, il y avait 15 albums en lice. Est arrivé en numéro 3 et tous les 3 albums sont talentueux. Un album qui s'appelle L'Orateur chez Glénat. Le deuxième prix a été donné à Aérostrat chez Dargo et qui se passe cette fois-ci à Éphèse, tandis que le numéro 3 se passait à Rome lors des fêtes de l'Hypercale. Et ici, nous sommes dans un album qui voyage entre Cadix, Rome et Arelate.
Bonjour, je suis ravie de remettre ce trophée fait par mon atelier. Le prototype, c'est un petit clin d'œil aussi à la ville de Nîmes. Et comme ils sont deux et qu'il y a un seul trophée,
donc je vais le garder.
Je pense qu'il va y avoir gros débat après entre eux. Mais en tout cas, j'en suis ravie d'avoir pu façonner. Donc c'est une pièce unique et je suis ravie de vous donner. Mais je ne sais pas à qui. Donc
il va falloir. Je le prends. Il a déjà la bande dessinée. C'est bravo, c'est vraiment bien.
Un grand merci à la mairie de Nîmes qui nous permet de donner un large écho à cet événement.